Vous écoutez France Culture.
C'est dimanche, aujourd'hui dans tout un monde, deuxième et dernière émission consacrée à la culture et à l'identité basque. Tout un monde, Marie-Hélène Freissé. Le magazine des cultures et des identités en mouvement. Coincée entre folklore et terrorisme, la culture basque serait-elle inaudible et invisible dans les grands médias? D'un côté, l'espadrille, la pelote, l'accent rocailleux, de l'autre, la liste des 820 morts présumés ou avérés tombés sous les balles ou les bombes de l'ETA. Aujourd'hui, dans tout un monde, la parole est à ceux qui pensent qu'une identité basque distincte est pleinement légitime et qui y contribue par un militantisme culturel qui refuse à la fois la commercialisation touristique et l'action violente. Nous entendrons des deux côtés de la frontière et des Pyrénées des écrivains, des musiciens, des éditeurs, des entrepreneurs qui estiment vital de pouvoir s'exprimer dans leur langue, de maintenir certains aspects essentiels de leur tradition. Quels aspects, ils nous le diront, tout en se vivant comme citoyens européens, citoyens du monde, et en refusant le piège des crispations identitaires. Outre ces reportages et ces témoignages recueillis par Alain de Valpo, j'ai le plaisir d'accueillir ici même Peyo Serbiel, grande figure de ce renouveau basque qui nous a fait l'amitié de venir de son village à 10 km de Mauléon, dans la vallée de la Soule. Et tout de suite, première incursion du côté des saveurs basques chez Ernest Arambide, cuisinier dans le Vieux-Bayonne.
Je suis originaire de la montagne, dans la région de Roncevaux. Et ma basquitude, je l'ai naturellement. Voilà, je crois que c'est l'essentiel.
Alors cette basquitude, qu'est-ce que c'est?
C'est un tout. C'est une terre, ce sont des produits, c'est une façon de vivre, une façon de penser, c'est un langage.
Cette basquitude, vous la vivez, vous la partagez aussi avec vos clients. Qu'est-ce que vous voulez leur faire découvrir?
Au début, lorsque je me suis installé, je me suis ouvert à mes compatriotes. Je voyais le basque disparaître peu à peu, c'est-à-dire une certaine uniformisation, ouais, des choses. Oh, moi, je crois que nous avons certaines valeurs. Et ces valeurs-là, eh bien, il faut les mettre en avant. Et bien sûr, un restaurant, c'est ouvert à tout le monde. Hein, à tous ceux qui veulent bien venir ici, nous découvrir nos produits. Et bien sûr, un restaurant, ça ne peut être qu'une ambassade, si tu veux, de la gastronomie et puis de tout ce qu'on peut y trouver aussi. D'ailleurs, ça fait office de tourisme également, à mon établissement. Et maintenant, bon, les gens, lorsqu'ils viennent, ils découvrent encore des plats, des recettes qui nous sont propres. Même les Basques, c'est ça le plus extraordinaire, même les Basques.
Ernest, pour nous mettre en bouche, aujourd'hui, la carte, vous proposez quoi?
Alors aujourd'hui, j'ai cette sempiternelle assiette navarraise, hein, des charcuteries frites, telles que la chistora, l'homo, chingara, et qui est navarrais, hein. Le deuxième plat, c'est un chou farci. Je fais maison. Ensuite, j'ai du merlu koshkera. Donc ça, c'est un plat typique composé de merlu que l'on fait cuire avec des asperges, des pommes de terre, des petits pois, du bouillon de l'ail bien entendu, des moules, des œufs. C'est un plat succulent. À goûter.
Sormeni xilen d'alzalekua, ulermen guzti elen jokua, bihotzabalez lotu eskua, ainiztasunez bizi mundua. Nire ametsa loak hiltzen du, loak ahaztu loak urrundu, iratzarra nimez beli galdu, bizitzaren posta sentimendu. Ai bizitza maite lastaneta erne, ai bizitza maite lastaneta erne.
Après Ernest, cuisinier militant, voici un musicien et chanteur militant que j'ai le plaisir d'accueillir au studio. Peyo Serbiel, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir fait le voyage pour être présent auprès des auditeurs de France Culture. C'est un extrait de votre dernier disque que nous entendons, Babel. Et ça dit bien que tout en étant très fortement ancré dans votre identité basque, vous êtes un citoyen de la planète. Quelques mots sur votre parcours personnel, des années un peu difficiles ces dernières années. Vous avez été inculpé d'hébergement, vous appelez ça délit d'hospitalité, de membres de l'ETA chez vous. Vous avez fait 16 mois de prison, vous êtes sorti en février 2006. Vous avez continué bravement votre carrière qui est déjà importante. Vous avez 7 ou 8 disques à votre actif.
6 albums. 6
albums.
6e disque, ouais.
Dont celui dont nous entendons un extrait qui jusqu'à présent était seulement diffusé sur Internet, mais qui va bientôt passer dans le circuit commercial. Mm-hmm. Et vous êtes né un petit peu en dehors de la culture basque, dans une famille qui n'était pas une militante, mais quelque part à la fin de l'adolescence, vous avez senti qu'il y avait là quelque chose avec quoi il vous fallait raccrocher.
En fait, vous savez, moi je suis de la génération des Trois Glorieuses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans l'idée qu'il y a des choses qui sont dans le nécessaire, mais pas dans l'indispensable. Ça veut dire qu'on nous a appris, mes parents m'ont toujours dit, pour les gens qui connaissent le Pays basque, mais je vous expliquerai d'une manière métaphorique, que la langue basque ne servirait pas plus loin que le pont de Viodos. Viodos, c'est le petit village qui est juste à côté de Mollion, qui à l'époque, quand je suis né dans les années, milieu des années 50, faisait 5800 habitants. Et donc suite à ça, le village après, il y avait juste un pont où passait la voie ferrée. Et donc ça signifiait que cette langue-là n'était pas une langue d'accession, si vous voulez, au savoir, à la société, etc. La langue basque était une langue qu'on apprenait dans la famille. Et dans ma famille, on ne m'a pas appris la langue basque. Ça voulait dire que... moi, je me suis trouvé un peu comme si j'étais unijambiste. C'est-à-dire, je savais une langue qui était la langue française, qui est une belle langue, mais parce que j'ai aussi fait des études de lettres après. Donc je ne renie pas cette langue-là. Mais il me manquait, je dirais, une sorte de, comme si je n'avais qu'un poumon. Et ne pas savoir le basque en Pays basque, c'est quand même quelque chose d'important, parce que pour être basque, le basque, c'est celui qui sait la langue basque. Donc on ne lui demande pas d'avoir 5 générations antérieures ou des collatéraux. Vous pouvez, Marie-Hélène, vous aussi, décider d'apprendre le basque, et puis on vous accueillera grand ouvert.
Ah, j'aimerais beaucoup.
Voilà.
Alors peut-être, Peyo, pour qu'on situe l'année de cette prise de conscience, parce que ça va nous permettre de la resituer également dans le renouveau basque.
Je me suis intéressé à la langue basque, j'avais 14-15 ans, mais je m'y suis intéressé par la musique et par une chanson.
Mais c'est quelle année alors?
Oh, c'est les années, je suis né en 1955, donc ça vous donnera les années 70. J'étais en classe de seconde et donc je me suis intéressé à cette langue-là par une mélodie, donc par une mélodie de jeune chanteur du Pays basque. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'était la façon dont cette langue là était une langue chantante. Alors après, j'ai suivi un cursus scolaire normal et un jour à 18 ans, je me suis dit, il faut que j'aille faire un stage. Alors j'ai fait un stage en immersion, qui était l'ancêtre des actuellement, vous avez des structures qui vous permettent d'apprendre la langue basque, qui s'appelle AEK, et avant il y avait d'autres structures. Et donc j'ai fait un stage d'un mois où je faisais 6 heures de cours par jour, plus le soir des conférences. Alors je ne comprenais rien, mais j'allais systématiquement aux conférences. Et comme vous savez très bien, c'est que de cette manière-là qu'on apprend une langue. Si vous voulez apprendre l'anglais, je vous conseille vivement d'aller en Angleterre. Je pense que le collège est utile aussi, mais ce sera beaucoup plus efficace.
Alors qu'est-ce qu'on a pensé dans votre milieu, dans votre famille, de cette démarche que vous avez entreprise ?
Elle était pour le moins curieuse, et d'autant qu'elle était, couplée d'un investissement, je dirais, en matière culturelle, puisque j'ai été partie prenante d'une association qui s'appelait Mendeberry, qui n'était pas du tout une association militante, mais qui avait pour objet de faire un travail de sensibilisation à la culture basque dans des collèges, dans des écoles, etc. Mais on sortait du folklorisme, là. On n'était pas du tout dans l'agence de tourisme du Pays Basque. On avait envie de comprendre que ce pays avait une histoire, qu'il avait une identité, mais que, bon, ce pays avait besoin de prendre un petit peu ses responsabilités vis-à-vis du présent, du passé et surtout de l'avenir. Donc, il y a eu des frictions chez moi, c'est vrai, mais bon, après, j'ai continué dans cette idée-là, dans cette idée qui est avant tout d'être surtout artiste et de travailler la musique. Alors, ça a été un peu long parce que je ne suis pas sorti d'une famille très aisée, mais j'ai eu là, quand même l'heure d'avoir une mère qui m'a envoyé faire prendre des cours de piano à l'âge de 6 ans. Et grâce à elle, je dirais que je fais le métier actuellement que je fais là. Et je lui sais gré de cette lucidité, voilà.
Et alors ce métier qui a enraciné votre langue dans une démarche de poète, de musicien, vous a, on va le dire tout de suite, fait rencontrer des musiciens de partout. C'est-à-dire que ça ne vous a pas limité bien loin de là, au Pays Basque, au contraire.
Non, parce que vous savez, je sais pas si c'est Scriabine, je crois, ou enfin on lui attribue cette phrase-là où il dit que les hommes politiques sont là pour établir des frontières et la musique est là pour les effacer. Je crois que dès le départ, j'ai été dans cette dimension-là. Il y a aussi un poète basque qui était un prêtre de Saint-Jean-Pied-de-Port et c'est un des premiers textes, des premiers incunables, donc qui date de 1545 à peu près. Et il dit langue basque sort de la cuisine, va sur la place, va de par le monde. Et c'est une musique qui a été, enfin un texte qui a été mis en musique par un poète dans les années 70. Et cette phrase-là est une sorte d'invitation à la rencontre. Mais je crois qu'elle va dans le sens de l'histoire des Basques. C'est pas les Basques qui sont fermés sur eux-mêmes. C'est les Basques qui ont toujours été un peuple de voyageurs pour des raisons choisies ou contraintes, que ce soit des exils de type économique ou des exils politiques aussi, il faut aussi le dire. Mais je veux dire que le Basque a toujours été dans cette démarche-là. Et en tout cas, cette phrase-là, je l'ai fait mienne et je les ai fait miennes parce que c'était nécessaire de rencontrer. J'ai fait 2 disques avec Jean-Pierre Madère, j'ai rencontré d'autres musiciens qui ont joué avec Mike Field, ou Nilda Fernandez ou d'autres, là, Renaud sur un dernier album, des chœurs, bien évidemment, dans le monde entier. Je crois que la musique, c'est quand même la meilleure façon de partager des choses.
Comment ça s'est passé pour vous depuis février 2006? Donc, vous êtes sorti de cette détention provisoire, le procès n'a pas encore eu lieu. Comment se déroule votre carrière depuis 2 ans et demi donc?
Ma carrière, elle est avec beaucoup de limites, puisque pour faire ce disque-là, initialement, ce disque-là est un projet d'une trilogie.
Naïs,
et,
donc.
Voilà, Naïs, je suis. Et donc cette trilogie s'appelle Nais Sara Garas, qui veut dire je suis, tu es, nous sommes, et donc a pour objet d'inviter une vingtaine, enfin pas une vingtaine, mais un ensemble d'artistes avec qui on a eu des collaborations dans ces 20-25 dernières années, donc basques et non basques, bien évidemment. Et je dois reconnaître que nous avions fait beaucoup de réunions de travail avec des collectivités locales qui s'étaient engagées, si vous voulez, sur des tours de table en termes de coproduction financière, mais aussi sur notre projet. Et sortis de prison, effectivement, ces gens-là se sont, je dirais, purement et simplement carapatés, donc pas donné suite à leurs engagements. Je trouve ça un peu...
En même temps, vous avez bénéficié d'un mouvement de solidarité très important, notamment parmi les artistes.
Oui.
Nombre de chanteurs, Maxime Le Forestier, Renaud...
Bien évidemment.
Vous ont soutenu.
Bien évidemment. Ça, c'est important d'un point de vue moral, mais je veux dire que démarrer dans ce métier-là, quand vous avez quand même des limitations de temps de travail, je suis tenu à un contrôle judiciaire toutes les semaines, je ne peux pas sortir du territoire français, je devais aller chanter en Belgique pour Ingrid Betancourt au mois de mars 2008, j'étais invité cet été à Saint-Pierre-Miquelon, c'est quand même mon travail qui est en jeu et c'est une entrave à la liberté du travail. Donc à un moment donné, moi je suis un homme public, je l'ai dit à Madame Ouivet, juge d'instruction, il n'est pas question pour moi de sortir du territoire. de respecter la législation, c'est clair, mais il ne faut pas qu'on m'empêche de travailler non plus. Je suis un homme public, je ne vais pas me cacher. Je n'ai jamais fait de concert sur des champs de mines. J'ai toujours dit clairement ce que je pense. Donc, il n'y a aucun danger à ce niveau-là. Donc, je suis dans un certain nombre de difficultés. Somme toute, j'ai eu la chance et j'ai encore la chance de connaître des gens en Pays Basque, à l'extérieur du Pays Basque, qui m'ont permis de faire ce disque dans des conditions plus difficiles. Et ce disque va sortir. Et c'est pour moi, je dis, une façon de continuer dans la dignité, ce que j'ai fait pendant ces 16 mois d'incarcération.
Et on va en entendre quelques extraits au fil de cette émission. Alors, je salue la présence avec nous d'Alain de Valpeau. Bonjour Alain.
Bonjour Marie-Hélène.
C'est vous qui avez fait les reportages. Et avec vous, donc, on va partir à la rencontre de ces acteurs de la culture basque, ces gens très engagés dans quelque chose qui est parfaitement pacifique, mais qui est très déterminé, ce qui est la défense de leur langue et de leur culture. Alors, tout de suite, une nouvelle rencontre.
Peyo Echevrien-Chart travaille dans la librairie Elkar. Elkar, ça veut dire ensemble. Au début des années 1970, Elkar était une société d'édition. Aujourd'hui, Elkar est devenue une société de distribution de produits culturels et des librairies comme celle d'Elkar dans le centre-ville de Bayonne. Il y en a une quinzaine dans tout le pays du Pays Basque. Et donc, Peyo Echevrien-Chart y est éditeur et il fait le point sur le monde de l'édition et de la littérature basque.
D'abord, la situation de cette librairie est assez atypique. La plupart des librairies, et en particulier des librairies de grande taille comme la nôtre, se situent plutôt dans le Grand Bayonne, voire même dans les zones industrielles et commerciales des franges extérieures de la ville. Nous, ici, on se situe dans le Petit Bayonne, qui est plutôt une zone où prolifèrent les bars, les restaurants, mais il y a très peu de commerce. Et donc, nous, on est quand même le grand commerce de cette zone-là. Et quand on entre dans ce magasin, ben, on est frappé de constater qu'il y a d'abord un fond généraliste, c'est-à-dire on y trouve un fond d'histoire, de droit, de montagne, de littérature française, de littérature en langue étrangère, tout type de littérature comme on en trouverait dans d'autres enseignes culturelles. Et puis, surtout le côté gauche du magasin, de manière bien lisible parce qu'on y tient, c'est quand même notre identité commerciale et culturelle bien sûr, on trouve tout un fond basque. Et dans ce fond basque, il y a évidemment les livres qui concernent le Pays basque mais en langue française, et les livres également concernant le Pays basque ou de littérature en langue basque.
Pour se faire une petite idée, combien de livres en basque avez-vous ?
Alors, le fond basque est constitué de milliers de titres, parce que vous imaginez bien que depuis, en gros, le milieu des années 60, où on a commencé vraiment à développer la langue basque, jusqu'à aujourd'hui, les gens ont écrit énormément. Et le rythme actuel est à peu près, pour la maison d'édition Elkar, de 120 nouveautés en langue basque chaque année. Donc ça, vous imaginez depuis 40 ans combien ça fait de titres. Et on n'est pas la seule maison d'édition. On est certes la plus grosse du Pays Basque, mais pas la seule. Donc il y a vraiment une production assez importante. Après, ici en Pays Basque Nord, bon, comme j'ai pu l'expliquer, la production est moins importante, moins nombreuse, moins diversifiée aussi d'ailleurs. C'est assez problématique. Et on sort, j'allais dire, une quinzaine de titres nouveaux chaque année. Pas tous en langue basque d'ailleurs. Chaque année, je pense que toutes maisons d'édition confondues, ici en Pays Basque Nord, doivent sortir, je pense, entre 10 et 15 livres en langue basque, pas plus.
Ce sont des livres tirés à combien d'exemplaires et est-ce qu'ils se vendent facilement ?
Voilà une question qui est assez problématique. À quel tirage sort un livre en langue basque ? Généralement, il est impossible quand même de tirer à moins de 1000 exemplaires, sinon vraiment c'est très peu rentable, ou alors on a un prix de vente très élevé, trop élevé. Mais sur ces 1000 exemplaires, généralement, il est difficile de considérer qu'il s'en vendra plus que 500-600. Ça pose un vrai problème, parce que ces livres-là donc ne sont pas rentables. Et pour pouvoir payer l'édition d'un livre en langue basque qui se vendra peu, il faut qu'on sorte à côté beaucoup plus de livres en langue française qui, eux, se vendront et qui permettront de couvrir les déficits des livres en langue basque. Donc, bon, c'est toute une arithmétique compliquée qu'on a appris à gérer aujourd'hui, mais qui, sur le plan de l'avenir de la langue basque, est assez problématique.
Pouvez-vous me présenter un livre paru récemment en basque et pourquoi vous avez décidé de l'éditer, par exemple ?
Alors, concernant la littérature en langue basque, l'un des derniers ouvrages parus, c'est celui-ci. Il s'appelle Goizeko Saspiak. Il a été écrit par une jeune auteure qui s'appelle Nora Arbelbide.
La traduction, s'il vous plaît.
Alors, ça veut dire 7 heures du matin. Et le principe de ce livre, alors plus que le livre lui-même, c'est la collection qui est intéressante, parce que la littérature en langue basque est quand même assez bicéphale. On a d'un côté une littérature de ces vieilles générations d'auteurs basques, bascophones, qui ont plus de 60 ans, 70 ans, et qui sont finalement assez peu lus par les jeunes générations. C'est pas très attractif quand même ce qu'ils racontent. Et donc, on se disait qu'il y avait une faiblesse chez les jeunes auteurs et qui rejaillissait sur le lectorat. Les jeunes bascophones, quand en plus ils ont déjà la chance de parler la langue basque, comment les attirer vers la lecture, vers la littérature, si la seule offre culturelle qu'ils ont à portée de main, c'est des livres écrits par des gens de 70 ans. Donc on s'est dit, il faut booster la littérature chez les jeunes. Et donc on a créé une bourse de littéraire en collaboration avec l'Institut culturel basque, le magasin Megadenda et la maison d'édition. Tous les deux ans, cette bourse est relancée. C'est une bourse de 3000 euros. On appelle donc aux candidatures. Puis, il y en a une qui est choisie. On lui donne la moitié de la bourse pour, pendant une année, que cet auteur continue le projet et le mène jusqu'à son terme. Et Norar Belbide est donc la dernière lauréate de ce concours avec ce roman, Goiseko Zazpiak, qui est un roman très frais. C'est exactement ce qu'il fallait pour dynamiser cette jeune littérature bascophone. Et on voit que ça se traduit dans les chiffres de vente, alors que toutes les vieilles générations d'auteurs se vendent quand même assez peu. Mais tous les livres de cette bourse de jeunesse se sont épuisés, ont dû être réédités. Et là, on a vraiment un bon signe pour l'avenir de la littérature en langue basque.
Et vous, en tant qu'éditeur, quels sont vos objectifs à court et à moyen terme ?
En tant qu'éditeur, moi, finalement, mon rôle il est assez sectoriel. Il est de développer, d'amener ma petite pierre au développement de la langue et de la culture basque dans mon rayon qui est celui de l'édition. Et j'essaie de le faire en essayant de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de vide dans l'offre culturelle en Pays basque. Jusqu'à présent, quand on parlait d'histoire du Pays basque, par exemple, il y avait un nombre important de pans de cette histoire qui étaient méconnus. Et donc mon rôle, c'est finalement d'essayer de chercher s'il y a des gens qui peuvent faire une recherche pour combler ces manques. Par exemple, sur la connaissance du Pays basque, de l'histoire du Pays basque, il nous manque un livre en un seul volume de, je sais pas moi, 300 ou 400 pages qui rassemble l'histoire du Pays basque dans son ensemble. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, on avait le principal historien du Pays basque qui avait raconté cette histoire, mais en 5 tomes, en 5 gros tomes. Ça m'étonnerait que quelqu'un qui connaît peu l'histoire du Pays basque cherche de suite à lire 5 tomes chacun de 300 pages, donc il y avait besoin d'un seul volume. Alors, il va falloir qu'on mette ça en chantier. Et puis il y a des gens qui n'aiment pas du tout lire et qui vont même pas se taper 300 pages d'histoire du Pays basque. Donc sur ça, il faut un espèce de que sais-je. On a lancé une collection de que sais-je pour s'adapter à ce type de public. Et puis, toujours sur le rayon de l'histoire, on a des gens qui aiment vraiment pas lire du tout, mais qui sont peut-être attirés par l'image. Donc on va essayer de sortir un livre de photos où on rassemble en 40 illustrations les 40 lieux, les 40 sites qui sont les plus représentatifs de l'histoire du Pays basque. Et à chaque photographie, on va associer un tout petit texte, des photos complémentaires, de sorte que vraiment, on s'adapte à ceux qui aiment très peu lire. Vous voyez ça, dans le rayon de l'histoire, on peut faire ça. Puis après, on essaie de faire la même chose, de manière imaginative, l'imagination est au pouvoir en Pays basque, pour combler tous ces vides-là.
Pio Etcheverry Enchart, éditeur et libraire. Alors cette jeune romancière en langue basque, Noura Arbelbide, la voici, elle évoque son dernier roman.
C'est une séquestration d'un groupe de musique qui arrive un soir, un samedi soir dans un petit village. Et donc il y a une jeune fille qui veut devenir une star du journalisme. Et donc elle va avec son copain caméraman qui est aussi précaire. Elle va faire l'enquête et du coup, c'était une excuse en fait pour parler du monde des journalistes et des médias de l'intérieur.
Dont vous faites partie.
Voilà, c'est ça. Et donc, le deuxième aspect du livre, je parle de la culture basque en particulier, de notre identité, qu'est-ce que c'est qu'être basque en ce moment, et surtout que c'est devenu un commerce du folklore, on vend la culture basque où on la manipule pour vendre des produits alimentaires ou même du tourisme. Et on la maltraite souvent. Et nous-mêmes, en tant que Basques, on est devenus souvent des touristes de notre propre culture. Et moi-même, même si je travaille en langue basque, même si j'écris en basque, je ne sais pas forcément qu'est-ce que c'est que d'être basque en 2008. Et j'avais envie de réfléchir sur ça. Et je me suis rendu compte que le fait d'écrire, en fait, en basque, de fait, le fait de vivre en basque, d'écrire en basque, ce fait-là même me faisait devenir basque et à partir de là, j'avais ouvert une porte qui fait que maintenant, tout est simple, quoi. La langue basque, pour moi, c'est le fondement et justement, quand j'ai commencé à écrire, je me suis rendu compte que qu'on peut parler de tout, de tout, de tout et il suffit de trouver les bons mots et c'était ça aussi, c'était très intéressant par rapport à ça.
Vous auriez écrit le même livre en français ?
Eh bien non, justement, en plus, j'ai déjà écrit pour écrire en basque, pour retrouver un rapport que j'avais perdu avec ma langue maternelle, puisque longtemps, j'ai été dans au collège et lycée français, où on n'apprend pas forcément à aimer notre langue, à lire notre langue, à faire avancer notre langue. Donc j'avais perdu un rapport, j'avais plus ou moins du mal à lire en basque, même si j'avais vraiment envie de faire ça. Après j'ai fait doc de lettres option basque. Ensuite j'ai commencé à écrire donc dans ce quotidien en langue basque qui s'appelait à l'époque Egunkaria. Et là j'avais du mal au début et puis je me suis forcée et ensuite ce monde-là à moi et c'était génial parce que ce son-là qui est très, c'est de la sensation, c'est au-delà de tout, c'est qui va directement au cœur, quoi. Je sais pas comment expliquer. Il y a beaucoup de choses qu'on comprend pas forcément, mais ça résonne en nous et c'est tellement beau ça. Et je prétends pas écrire en basque parce que c'est mieux qu'en français, au contraire, mais moi c'est juste ma langue, quoi. Voilà.
Vous vous posez dans le roman la question de l'identité et comment être basque. Aujourd'hui, lorsque, comme vous, on a moins de 30 ans, que répondez-vous dans votre roman ?
Ce que je vois autour de moi, c'est que souvent, la langue, on l'a perdue. Et du coup, on se raccroche à des choses qui n'ont plus de sens, qui sont devenues des musées, des monuments. Je ne sais pas, par exemple, on prend le drapeau basque, qui est devenu l'un des emblèmes du BO, là, du rugby à Biarritz. Ils ne savent même pas que c'est un drapeau basque ou le béret basque. Ça devient mercantile, en fait. Comme on l'a perdu... La langue, on se raccroche à des choses de la tradition, espèce de nostalgie. Donc on a perdu tout ce qui était sensoriel et tout ça. Donc on se cantonne à cette matérialité-là, qui fait que ça va peut-être disparaître. Alors que la langue, ça bouge, c'est dynamique, ça peut pas vieillir, quoi. Et ce qui était intéressant, par exemple, je suis allée en Idaho, où j'ai de la famille justement de la diaspora basque. Et j'ai une cousine lointaine donc qui a 21 ans, qui n'est jamais venue au Pays Basque et qui sait le basque. Donc là, il n'y a plus de territoire. Là, c'est juste une langue. Et elle est basque, elle a son cœur qui est basque, elle pense en basque. Et c'était beau, je me disais, hein, voilà une contradiction qui va tout au-delà du territoire qui est tout le temps polémique. En plus, ici au Pays Basque, c'est tout le temps... C'est très très lourd, ça fait des années... qu'on subit ça, qu'on doit justifier, mais pourquoi un pays basque, pourquoi vous êtes basque, tout le temps, depuis qu'on est petit, c'est tellement lourd tout ça. Alors que quand on sait la langue, il n'y a plus besoin de justifier, même en Idaho ou je sais pas moi, en Nevada, eh bien ça résonne et on est basque. Enfin, moi ça m'a énormément touché que cette fille-là sache le basque et que voilà, je pense qu'elle est basque.
Nora Arbelbildé, votre livre Goizeko Zazpiak, est-ce que vous souhaitez qu'il soit traduit en français ?
Non, pas forcément. Parce que c'est un peu dur d'entendre, bon, à quand le français ? En fait, c'est-à-dire que mon livre en langue basque, ça vaut rien, quoi. C'est joli, c'est bien, il faut faire vivre la culture, la langue. Bon. C'est très joli sur une étagère, comme ça. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses et je vais écrire en français. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça et c'est limite, voilà, vexant d'un côté et de l'autre, en plus, à ce niveau-là, mon livre. Est en soi en basque et par ce biais-là, j'explique ce que c'est pour moi d'être basque. Donc, ce serait en contradiction. Je ne dis pas que j'écrirai jamais en français, mais ça serait autre chose complètement. Et pour moi, la littérature, c'est prendre du plaisir et la langue que j'ai envie, enfin, avec laquelle je prends le plus de plaisir, que j'ai envie de travailler, de faire vivre, c'est vraiment la langue basque. Je préfère, enfin, c'est aussi un choix. Au-delà de la littérature, de dire, ben non, c'est pas inutile d'écrire en basque. Et puis les gens, ces gens-là qui disent, ah, quand la traduction, ben, je leur dis, ben, ah, quand tu commences pas à apprendre le basque, ça serait cool quand même.
Dame un vaso, te quiero beber. Dame un rato, te quiero comer. zure ahoan emaiten pausu, zure kopetan hausebi musu. Dame besito sobre el pezón, sabes el perfume del algodón. Dago la tabila da torrela, musu, musu, musu katzen zaitut.
Dame un dedo para tocarte, dame un vaso de viva leche, nere bulajak tinkatzen zaitu, zure xukara eman didazu. Dame besito sobre el pezón, tienes ahora color algodón. Dago la dabila da torrela, balin babizitzaren emaitza.
Dame chiquita.
Tango de Risas par Peyo Serbiel en basque et en espagnol, extrait du dernier disque Naïs. Peyo Serbiel, vous êtes avec nous en direct pour évoquer cette culture basque qu'évoquait si bien avant vous Nora Arbel-Bidé, cette jeune romancière qui laisse à penser qu'il y a une véritable relève autour de vous. Vous avez 52 ans, elle, elle est d'une génération beaucoup plus jeune, elle est dans ses 30 ans. Alors vous vous sentez moins seule, Peyo Serbiel, avec des gens comme ça, non ?
Oui, je me sens surtout très heureux parce qu'elle dit des choses extrêmement importantes. Elle est en train de faire une vraie redéfinition de ce qu'est être basque aujourd'hui. Quand elle parle des gens du Biarritz olympique qui utilisent le drapeau basque comme une sorte d'emblème, c'est-à-dire que ces gens, vous savez, dans ce cas de la mondialisation, on a besoin à un moment donné de ressortir des espèces d'oriflammes comme ça, d'effigies, pour se dire « je suis de quelque part ». Mais je suis de quelque part, mais je n'apprendrai pas ce qui est la base de ce quelque part. C'est-à-dire qu'avoir une identité, c'est avoir sûrement une terre, avoir une respiration, mais être basque sans savoir le basque, c'est un non-sens, et il faut le dire. Alors, quand on voit des réflexions de ce type-là, et elle nous montre quelque chose qui pourrait passer comme quelque chose de paradoxal, quand elle parle de sa cousine dans l'Idaho, où là, il n'est pas une question de territoire qui se défendrait de manière politique ou simplement culturelle, cette personne-là se sent pour... Elle est dans la définition, sa cousine, de la véritable basquité ou de la véritable basquitude, en savoir que Euskalduna, c'est celui qui sait la langue basque. Et donc quand elle pose très bien par rapport à la question d'Alain, qui est une question un peu perfide, elle dit mais à quand la traduction en français? Elle voudrait dire ce que je vous disais au départ, la langue basque ne vous servira pas plus loin que le pont de Viodos. Donc c'est la langue française qui sert à parler de philosophie avec la langue basque. On dit ouais, je veux un sandwich, un jambon. Donc on est là dans une dimension adulte de la langue basque, d'une identité qui doit passer par une réappropriation de ce territoire, et on est aux antipodes de tout ce que définit le comité départemental du tourisme, par exemple chez nous, où on a envie de désincarner ce peuple, ce pays, ce territoire. Mais ça fait bien quand même, vous savez, d'avoir quelques éléments comme ça où on pourra parler du pays basque.
Alors à propos de cette diaspora qu'elle évoquait, l'Idaho, il faut quand même préciser que c'est un État américain qui est perdu dans les Rocheuses, c'est vraiment très très loin du pays basque, même si c'est aussi en montagne. C'est un phénomène, cette volonté des Basques de se regrouper en diaspora qu'on a pu constater dans beaucoup d'endroits dans le monde, et notamment dans d'autres endroits d'Amérique du Nord, sur le territoire français, à Saint-Pierre-et-Miquelon. On peut voir des communautés basques, mais extrêmement ancrées dans le souvenir, qui pratiquent aussi la langue. Il y a une véritable diaspora dans d'autres endroits du monde. Enfin, vous êtes conscient de ça? Ce sont des gens qui écoutent vos chansons?
Ah, qui écoutent mes chansons, ça, je ne sais pas trop. Mais vous,
mais
savez,
vous avez des contacts avec
Oui, un petit peu. Vous savez qu'en Argentine, par exemple, l'Argentine a 30 millions d'habitants et il y a plus de 10% de gens qui sont basques. Donc c'est quand même plus de 3 millions d'habitants.
Vous avez revendiqué, pratiquant un peu la
langue. Il y a beaucoup de maisons des Basques. Euskal Etxea, il y en a beaucoup. Enfin, Euskal Etxea, ça veut dire la maison. C'est des centres basques, des centres basques où se réunissent les Basques. Il y en a beaucoup en Argentine, il y en a dans d'autres pays, il y en a un peu en Uruguay, il y en a au Venezuela, il y en a... L'Amérique latine est un pays où il y a aussi beaucoup de Basques qui sont partis, beaucoup au 19e siècle, pour des raisons. Vous savez, il y a eu pendant très longtemps une sorte de... Il y avait avait deux droits qui se côtoyaient, le droit français qui stipulait qu'on était des enfants tous égaux devant un héritage, et le droit basque qui stipulait que c'était le droit d'aînesse. C'était une façon de pérenniser, vous savez, les entreprises, les propriétés agricoles, et une façon de ne pas démanteler l'Etché, la maison basque, qui était le cœur, je veux dire, de la vie de chaque famille, le cœur de ce peuple.
C'est un relais sur trois concurrents. Est-ce qu'on est prêt à Souraïda ? Eh oui, on est prêt ? Aguila ? Alors, cachou, hein ? Hilo, Bida, Bat, parti ! Voilà, donc, là, le pont bien franchi, on passe sous la haie, on va franchir le chevalet là-bas au fond, et on va revenir au sprint sans passer. Sous l'obstacle.
Il y a beaucoup de choses aussi qui se passent au Pays Basque. Alors là, on va être justement dans une de ces manifestations de l'identité basque. On se demandera si c'est du folklore ou si c'est véritablement un lieu de socialisation très fort. Ce sont les Jeux de Force que vous avez enregistrés à Alain de Valpeau. À quel endroit ?
Nous sommes dans l'intérieur du Pays Basque, dans le petit village de Saint-Étienne de Baïgorry. Et ces Jeux Basques sont toujours animés par quelqu'un qui a beaucoup de bagout. Et à Baïgorry, depuis des années, la personne qui tous les étés parle des Jeux de Force Basque aux touristes s'appelle Lalou Irigaray.
Donc au départ, ces Jeux, d'ailleurs vous voyez, ce sont des Jeux un petit peu agricoles, si on peut dire. Après le travail, comme ça, on se lançait des défis. Tiens, moi je soulève la charrette, je l'amène plus loin que toi, moi je suis plus fort que toi à la paille. Enfin bon, c'était un peu des défis que se lançaient les agriculteurs, en particulier entre eux. Ensuite, ces jeux ont été codifiés et sont devenus, si vous voulez, des sports. Hein, on est passé du jeu au sport. Et maintenant, il y a une fédération de jeux de force basque. Et donc, maintenant, ça continue toujours à faire partie un peu de notre culture, de notre vie, quoi. Hein. Et puis, il y a un championnat international, d'ailleurs, de chocatira, de tir à la corde, qui est aussi un sport roi ici, quoi, hein, qui fait partie de... Bon, c'est le jeu le plus traditionnel, et bon, ça aussi c'est parti au départ de défis que se lançaient. Bon, moi je suis plus fort que toi, parce que bon, et puis ensuite, bon, c'est devenu, maintenant il y a des, par exemple, au chocatira, au tir à la corde, vous avez des poids. Il y a des équipes, alors à 8, il ne faut pas dépasser 680 kilos, vous avez une autre catégorie à 820 kilos, enfin bon, c'est vraiment codifié, quoi. Hein. Les bûcherons, par exemple, il y a des championnats qui sont extrêmement courus de l'autre côté de la frontière, quoi. Et ici, si vous voulez, à Baïgorry, on les fait venir un petit peu pour montrer aux gens un aspect de cette culture, de cette tradition.
Ces jeux basques sont joués du côté sud et du côté nord ?
Oui, la plupart, oui, presque tous. Oui.
Il y a des rencontres nord-sud ?
Il y a le tir à la corde, il va y avoir donc des rencontres entre nord-sud. Au lever de paille, par exemple, je ne crois pas qu'il y ait des championnats, parce que tout le monde ne pratique pas exactement les mêmes sports quand même. Hein.
Autre spectacle populaire très cher au cœur des Basques, la Pastorale, un théâtre traditionnel. Nous sommes avec Jean-Louis Davant, qui est auteur de Pastorale.
Nous sommes au village d'Espèce, commune d'Espèce du Rhin. Nous sommes dans une vaste prairie au bord du Gave. D'un côté, nous avons des bois, de l'autre, nous avons de hautes collines. Et dans ce cadre champêtre, nous préparons une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre très typique de cette vallée du Pays Basque, la dernière vallée à l'est et la dernière petite province parmi les sept que compte le Pays Basque. Ça s'appelle une pastorale, donc c'est un nom qui a été emprunté et donc à des pièces de théâtre françaises et auparavant italiennes et puis espagnol également. Cervantes en écrivit une. C'était d'aimables bergeries. Ceci n'a pas grand-chose à voir. hors le titre, parce que c'est un théâtre épique. Épique, et on l'appelle même tragique en basque, mais c'est plutôt de la tragicomédie.
J'ai l'impression d'assister à une grande fresque historique.
Oui, oui, on raconte la vie d'un personnage historique ou d'un groupe historique. Voilà. Donc c'est effectivement une fresque historique qui se situe au temps des rois maudits.
Ce théâtre, c'est pastoral, c'est une tradition purement basque.
Il y avait un théâtre rural beaucoup plus vaste, qui existait notamment en Bretagne, au Béarn, dans certaines régions d'Italie, etc. Et qui s'est perdu ailleurs, qui a subsisté ici en prenant des formes très particulières. Donc c'est un théâtre très ritualisé, avec des acteurs qui déambulent sous une forme très stylisée, liturgique pour ainsi dire. On pense que ces déambulations le long de la scène viennent de la procession. Tout se chante, mais sur un air probablement grégorien. Donc, au lieu de dire, on chantonne, quoi. Et puis, de temps en temps, il y a un chant qui coupe ce qui pourrait être monotone dans les scènes successives. Tout le texte est en basque et la stylisation aussi est particulière à cette région de Soule et puis aux environs immédiats du Béarn et de Basse-Navarre. Donc c'est centré sur la Soule, bon, qui a mis son style propre dans cette forme de théâtre. Oui.
Depuis une vingtaine d'années, on assiste à un renouveau de la culture basque et de la langue basque. Est-ce que ce renouveau touche aussi les pastorales ?
Oui, absolument. Nous sommes actuellement une dizaine d'auteurs, ce qui est beaucoup. Pendant un quart de siècle, nous avons eu un seul auteur, Etchaoun Iruri, Etchaoun de Trois-Villes, qui était un barde. Ensuite, il y a eu le père Cazenave, qui a apporté beaucoup de hauteur littéraire, linguistique, historique à ce théâtre traditionnel, qui racontait une histoire plutôt légendaire. Maintenant, on est dans la rigueur historique, linguistique et de versification. Et puis je m'y suis mis aussi, c'est la sixième qu'on me joue, j'en ai deux d'avance, et puis des auteurs plus jeunes apparaissent maintenant. Donc il y a plutôt pléthore, il y a aussi une grosse concurrence entre les villages. Chacun cherche à se placer, et donc l'année prochaine est prise, 2010 aussi, 2011 en passe de lettres, 2012 est également pris.
Les pastorales, ce sont des acteurs non professionnels, ce sont des villageois, ce sont 6 mois de répétition. Vous trouvez facilement des gens qui s'engagent à jouer ces pastorales ?
Là aussi, c'est plutôt la pléthore. Nous sommes une centaine d'adultes à l'unité près et 26 enfants donc sur les planches là. Et on pourrait très bien faire avec la moitié. Mais bon, on prend tous les volontaires.
Et le public, lui aussi, présente de l'intérêt ?
Oui, oui, oui. Quand il fait beau, que la pièce semble devoir être prestigieuse, eh bien, le public afflue, oui. Il y a jusqu'à 4000 spectateurs par représentation. Alors, il y a deux représentations, deux dimanches ou successifs ou espacés d'un dimanche vide.
Tout le monde ne parle pas basque parmi ces acteurs ?
Non, loin de là. Ici, dans la vallée, ceux de mon âge le savent, ils ne l'ont pas transmis. Par contre, dans les villages des deux côtés, il y a beaucoup de bascophones. Mais là, une bonne partie des acteurs ne sait pas le basque.
Et pour ces gens-là, c'est aussi un retour vers le basque que de participer au pastoral?
Oui, certainement, oui. Oui, oui. Ah, ils doivent quand même apprendre les chants, et ça fait beaucoup de paroles aussi à apprendre.
Un renouveau culturel au Pays Basque, mais aussi une économie. Alain de Valpo, les traditions basques ont une pratique de l'économie un peu différente et qui peut parfois être très positive.
Cette région est une région riche et dynamique sur le plan économique, une richesse qui favorise une politique culturelle, mais une richesse qui est aussi le produit de la culture et notamment le travail en coopérative. Et pour en parler, voici Ramucho Camblon. Il est aujourd'hui à la retraite, mais il reste une figure du mouvement coopératif basque.
On peut dire que c'est issu de la tradition paysanne, tradition agricole du Pays basque, où les fermes s'entraidaient entre elles pour les fenaisons, les moissons, etc. Où ces mêmes fermes arrangeaient au printemps ensemble les chemins qui menaient à travers la campagne de l'une à l'autre. Et même, moi personnellement, j'ai vu dans les années 40, fin des années 40, début des années 50, un village, mon village, les patrons, les chefs de ferme, aller de maison en maison faire une quête pour l'école publique du village. Voilà. Donc il y avait une tradition coopérative ancienne qui a dû rester, qui a dû ensuite se transférer dans l'industrie. Ce mouvement coopératif, ici, il n'a pas eu l'essor qu'il a connu au sud, parce que nous sommes un pays plus d'économie résidentielle et de tourisme que d'industrie. Mais au sud, il a connu un essor formidable, puisque le principal groupe coopératif, c'est le groupe Mondragon, Mondragon Cooperative Corporation, MCC, comme on dit, qui a essaimé dans le monde entier. Aujourd'hui, il a 100 000 salariés, il y en a 50 000 qui sont hors du Pays basque. Il y en a en Chine, il y en a en Iran, il y en a en Pologne, en Russie, en Tchéquie, il y en a aussi en Mexico, aux États-Unis aussi. Et c'est fou de voir qu'une petite coopérative comme ça a pu créer ce monde-là et toutes ces entreprises, et surtout exporter son modèle et ses produits dans le monde entier.
Qu'est-ce qui, dans l'identité basque, explique la réussite de ces coopératives basques?
Je pense qu'on a appris de nos parents la solidarité entre nous, et ça s'est développé parce que les gens voulaient garder leur identité. Voilà, ça c'est une caractéristique du peuple basque, c'est vouloir garder son identité. Et pour garder son identité, c'est s'unir. Voilà. C'est ça qui fait que ça rejaillit, la culture a rejailli sur l'économie et l'économie ensuite a rejailli sur la culture. Les deux sont très étroitement imbriqués.
Au Pays Basque Sud, ce sont des entreprises, mais c'est aussi donc une banque, un système mutualiste, c'est tout un contexte coopératif.
Oui, on peut dire que c'est la coopérative globale, hein, puisqu'il y a même les écoles, même... La première école, l'école professionnelle, est devenue ensuite un lycée. Ensuite, il est devenu, aujourd'hui, c'est une université. C'est une université privée, financée toujours par les coopératives, et qui forme des cadres pour les coopératives. C'est pour vous dire que c'est global. Et ensuite, donc, ils n'étaient pas les salariés des coopératives, salariés sociétaires, puisque tout le monde est sociétaire obligatoirement. N'étaient pas admis à la sécurité sociale normale et ils ont créé leur propre mutuelle, la Gunaro, le temps de la solidarité. Et la solidarité, comme je vous l'ai dit, on a vu donc des ouvriers, des sociétaires, aller d'une coopérative qui allait mal ou qui n'avait plus de travail dans une coopérative qui en avait. Voilà, ça s'est vu au Pays Basque Sud, oui.
Et aujourd'hui, dans le cas de Mondragon, c'est un état d'esprit qui essaye de s'exporter avec la mondialisation.
Oui, c'est tout à fait ça. le fait ensuite de transformer ces entreprises en coopératives et de faire des travailleurs des vrais sociétaires, c'est pas facile. C'est le cas, par exemple, en France, avec Brandt, qui a été racheté donc par Fagor. Fagor qui est l'entreprise phare du groupe Mondragon. Et il leur faudra, ils ont prévu, 3 ou 4 ans pour que les travailleurs de Brandt deviennent des vrais coopérateurs. Et Mondragon, c'est une expérience. Ce n'est pas un dogme. Hein, ça, il faut bien le comprendre. Ce sont des hommes et des femmes qui avancent pas à pas, qui essaient de s'adapter et de résoudre les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent.
Kosta partean batez ere urdinak nagusi direla esan liteke, baina poliki poliki gero eta hodei gehiago izango direla ondoren.
Enfin, pas de renouveau culturel sans médias au Pays Basque comme ailleurs. La semaine dernière, nous évoquions la presse écrite en basque et tout de suite, nous allons visiter la radio-télévision publique basque EITB basée à Bilbao.
Escuchas Radio Euskadi.
Nous sommes à la rédaction centrale d'information de OITV, où nous avons une rédaction multimédia. C'est la première fois que nous travaillons coude à coude, télévision, radio et Internet. Et cet effort se traduit par cette grande rédaction où travaillent environ 1000 personnes, dont 600 journalistes. En Espagne, c'est une des premières expériences de ce genre et au niveau européen, il y a peu de rédactions de cette taille avec cette philosophie multimédia. Et la participation des auditeurs ou téléspectateurs qui viennent à la rédaction. Nous avons un contact direct avec notre audience.
Miguel Riparaz, dans les provinces du sud du Pays Basque, comment se fait-il que vous ayez tant de moyens en comparaison avec les provinces du Nord ?
Voilà 25 ans que les groupes de radio-télévision publique basque existent. Cela découle de notre statut d'autonomie. Nous sommes autonomes quand à nos institutions et nous avons un groupe public de radio-télévision sous la tutelle du Parlement basque. Nous avons un conseil d'administration où sont représentés tous les partis politiques basques et c'est à ce conseil que nous rendons des comptes. Nous ne sommes donc pas sous la tutelle du gouvernement, mais du Parlement. Le financement provient en majorité du budget du gouvernement basque, mais nous avons aussi une part des autofinancements avec la publicité. La philosophie de EITV est de couvrir tous les pays basques en incluant les pays basques français, Iparralde. Dans les principes fondateurs de EITV, il y a aussi la protection et l'utilisation de la langue basque dans les médias, ce qui fait ici notre spécificité. Et cela n'existe pas en Iparralde.
Radio Euskadi. Servicios informativos.
On l'aura compris, le renouveau de la culture basque est en marche. Peyo Serbiel, on écoute en ce moment un extrait de votre dernier disque, Naïs, ce cœur d'homme et de femme qui a l'air assez martial. De quoi s'agit-il ?
Non, c'est une pièce que j'ai écrite qui s'appelle Guernica 2. Chacun connaît l'histoire de Guernica, où un jour de marché, l'armée allemande a bombardé ce qui était la ville symbole de notre peuple. Et donc, j'ai voulu, c'était le 60e anniversaire l'année dernière, écrire une pièce qui soit une pièce où il y a deux mots qui disent addition, soustraction. Et donc voilà, c'était pas plus que ça. Et quoi de mieux qu'un chœur pour le faire et puis raconter symboliquement ce qui a déjà peut-être été dit, mais qu'il faut souvent rappeler parce que c'est important de se rappeler des périodes de ce type-là.
Peyo Serbiel, nous avons écouté ensemble ces témoignages. On n'a pu que constater les avancées donc, de ce renouveau basque, mais au sud surtout, puisque en France, les statistiques nous le disent, ça marque encore le pas, notamment sur le plan linguistique. Vous aviez quelques chiffres à nous soumettre.
Moi, j'ai simplement les résultats d'une enquête, brièvement, qui s'est terminée en 2006, où on dit que de 1996 à 2009, le nombre de bascophones est passé de 56 000 à 51 800 en Pays basque français, et en revanche, de 443 200 à 557 600 dans la communauté autonome basque, et de 42 100 à 56 400 en Navarre. Alors pour les gens, simple petite explication, communauté autonome basque, ce sont les provinces de Saint-Sébastien, Bilbao et Vitoria, et la Navarre, c'est la province de Pamplune. Il faut savoir que cette Navarre-là, nous souhaitons, nous, un jour qu'elle soit rattachée au Pays basque, et elle bénéficie pour le moment d'un statut non rattaché au Pays basque, et ça fera l'objet, je dirais, de combats dans les mois et dans les semaines, dans les années à venir, ça c'est clair.
Comment voyez-vous l'avenir des 20 prochaines années? Vous voyez ce décalage s'accentuer entre la France et l'Espagne?
Moi, je prends acte, si vous voulez, d'un certain nombre de choses qui existent très très fortement, et notamment de la montée, je dirais, de dynamiques qui sont à l'initiative des Basques, donc des Abertzales. Des Abertzales, c'est ce qu'on appelle chez nous les patriotes, mais pas dans le sens de patriotes de droite. Enfin, c'est des gens qui ont conscience que ce pays, il doit regarder, même s'il a les pieds dans la boue, il doit continuer à regarder vers les étoiles. Et c'est automatiquement, comme le disait Ramon Chocamblon, par une prise en charge de notre réalité, que ce soit sur le plan de vue culturel, linguistique ou économique. On voit bien, au mois de janvier, il y aura un procès qui va être fait à la Chambre d'agriculture du Pays basque. Ce sont des agriculteurs qui sont majoritaires dans la partie basque du département. C'est un syndicat basque de type Confédération paysanne. Et là, il y a l'administration qui a mis les pieds et les mains pour que cette structure-là ne puisse pas exister. Une autre étape encore, je dirais, dans la façon, je dirais, qu'ont les Basques de regarder l'avenir en se disant qu'il faut nous-mêmes créer des structures pour lesquelles l'État français n'est pas capable, auxquelles l'État français n'est pas capable de répondre. Ça a déjà été le cas pour les écoles en langue basque, qui sont les Ikastola, qui regroupent actuellement 2500 élèves et que pour lesquelles personne n'oserait dire qu'elles ne sont pas indispensables. Ça va être le cas pour des structures de type industriel, de type agricole et, je dirais, de type culturel. Nous avons besoin d'un outil culturel qui malheureusement n'est pas là ou absent pour, je dirais, défendre et la musique et le théâtre et la peinture et pourquoi pas le cinéma. Côté français, on est un peu absent de ce côté-là.
Et on va rappeler que vous-même, Peyo Serbiel, chanteur, vous vous concevez comme voyageur, comme un chanteur au cœur de la planète et que vous niez toutes les formes d'exclusion identitaire régressive.
Chez nous, l'identité, elle n'est pas régressive. Enfin, je veux dire que ça, c'est pour nous, c'est pas une vision. Nous, l'identité, si vous voulez, c'est une façon de grandir. Je veux dire, je comprends pas être basque et apprendre la langue basque. Pour moi, c'est comme un oiseau qui se déploie, quoi. Je veux dire que c'est pas un oiseau qui se renferme sur lui-même. Au contraire, on a ce besoin-là. Et nous, les Basques n'ont jamais. Vous savez, au début du XXe siècle, j'ai habité il y a une vingtaine d'années dans une maison. J'ai vu une carte du monde et il y avait 5 pays qui possédaient la planète. Jusqu'en 1950, vous aviez la France, la Hollande, l'Espagne, le Portugal, le Royaume-Uni qui se partageaient la planète. Et à partir de 1950, on a appelé ça du terrorisme en Algérie ou dans les pays d'Afrique. Ce ne sont que des guerres de libération. Donc il faut savoir que, alors, même si moi je ne cautionne pas la violence, tout ce que nous faisons actuellement d'un point de vue politique, culturel, économique ou social, ce sont uniquement l'envie de regarder vers les étoiles et un jour de se dire nous allons participer à l'Orchestre symphonique des Nations.
Merci Peyo Serbiel. On va encore vous écouter dans quelques instants une dernière fois. Ceux qui ont écouté cette émission avec nous peuvent consulter votre site que nous mettons en lien sur notre propre site franceculture.com à la page Tout un monde, où d'ailleurs ils pourront trouver aussi d'autres liens vers des organismes basques, beaucoup d'informations donc sur ce renouveau culturel basque. Et puis également, vous y trouverez un très copieux agenda, donc, puisque dans Tout un monde, nous proposons avec gourmandise de rencontrer la culture des autres, et donc sous forme d'expositions, de festivals, beaucoup de choses que nous sélectionnons pour vous sur ce site. Cette prière Otoitsa que va se clore Tout un monde. Peyo Serbiel, une prière que vous avez composée
en prison. C'était le seul endroit, quand j'allais sous la douche, où j'avais 10 secondes de réverb. Je voudrais terminer juste avec une phrase de Saint-Exupéry qui dit « Si tu diffères de moi, mon frère, ta différence, loin de me léser, m'enrichit. » Et je crois que c'est le sens de ce que nous souhaiterions en Europe, que nous ne soyons plus exclus, que nous participions à cette envie du désir d'humain en Europe et se donner la main avec les autres peuples.
Merci Peyo Serbiel, ça sera le mot de la fin donc pour Tout un monde, dont la première partie se termine. À la technique se trouvait Michel Mestre, à la réalisation Anne de Pelchat. Tout un monde, chaque dimanche, avec la collaboration de Claude Armand de Castillo, vous est proposé par Marie-Hélène Freissé. Continuons sur ce thème des identités multiples en direction du Maroc. Reportage d'Anne de Giaferi pour Les Échos de la planète francophone, dans ce Maroc qui cherche à conserver sa francophonie, notamment dans la petite ville d'Oujda.